vais d'abord donner la parole à M. Bruno Daugeron, qui va nous donner son sentiment, premier sentiment, sur les écrits de Burdon.
Merci, M. le Président, cher Armel. C'est évidemment un grand honneur pour moi d'être associé à la mémoire du grand Georges Bugeaud. Je peux enfin, d'une certaine manière, assumer devant tout le monde mon burdisme caché, puisque ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile à porter, à l'heure à la fois du droit constitutionnel contentieux et de la science politique sociologique. Je me suis souvent vu, alors que j'évoquais Burdeau, entendre, répondre, Burdeau, mais qu'est-ce qu'il peut bien me trouver? Soit c'est très vieillot, soit au contraire c'est un auteur trop récent pour qu'on puisse véritablement s'y intéresser. Donc je suis heureux que, grâce au professeur Roquin, les textes de sortir des catacombes de Cujas, c'est encore pas tout, puisque les catacombes de Cujas, vous savez, sont parfois lacunaires, et je dois au professeur Divlec de m'avoir quitté grâce à ses notes jusqu'à un article que sans lui nous n'aurions pas retrouvé, c'est l'article justement de 1960, où, enfin, grâce à vous, on n'aurait pas pu le retrouver, et finalement avoir aidé le professeur Divlec à chercher ces articles et le principal titre qui me permet finalement de parler ici. Que je dois également au fait d'avoir, pendant ma thèse, à l'occasion de ma thèse, beaucoup lu Burdeau et avoir engagé un nombre de conversations très importantes avec le professeur Nankin, mon directeur de thèse, sur ce sujet, parce que je savais qu'il aurait été son assistant, qu'il le connaissait bien, qu'il aurait pu être son directeur de thèse. Et nous étions surpris, à mains égards, j'étais surpris, moi, de la qualité que je trouvais dans les écrits de Burdeau. Donc il n'est pas question pour moi aujourd'hui de vous faire une synthèse de la pensée. Choses ont été dites, et c'est amusant parce que ce qu'a dit le professeur Henri à l'instant, j'ai peut-être esquissé une partie de la réponse, parce que je crois que Burdeau a donné des précisions par la suite. Donc je ne peux pas faire une synthèse, parce que d'abord c'est évidemment très compliqué. L'œuvre et la matière de Burdeau est évidemment résumable, il traite des questions qui sont tout à fait simples sur le droit public, la politique, l'État, très difficile. De se pencher comme ça, spontanément sur ces notions. Et ensuite, parce que, à vrai dire, malgré ma lecture de Burdeau, malgré ma bibliophilie pour Burdeau, parce que je dois également avouer que j'ai une coquetterie d'avoir presque tout Burdeau dans ma bibliothèque, y compris les thèses, y compris les choses qui sont tout à fait trouvables, malheureusement, je n'ai pas encore pu lire suffisamment Burdeau, et le mot de monument a été prononcé tout à l'heure, le monument est grand, il y a plusieurs entrées, il est difficile d'y entrer, et donc mes points d'entrée sont évidemment des points d'entrée subjectifs. Lié au sujet de ma thèse. Et j'ai été frappé, donc, quand je lisais les textes de Burdeau, par des formules qui étaient une véritable fulgurance, le pouvoir, et l'énergie, la politique, c'est du social, du conscient, l'élection et le drame de la démocratie, et une dernière qui est plus récente, que j'avais, je crois, lue en lisant les conventions de la Constitution du professeur Rue au moment du DEA, à propos de la pratique politique de la Ve République, sur le fait, ça permettait de savoir s'il y avait ou non des violations de la Constitution, il y avait cette formule géniale consistant à dire qu'il ne fallait pas parler de violation parce que le viol par consentement mutuel n'existait pas dans notre droit, et qu'il fallait donc renoncer au grand mot et parler d'évolution, vocable indulgent, qui absout la faute au moment même où il la révèle. Et c'était très bien. Donc, l'entrée dans le Burdeau est délicate parce que les formules qu'il emploie sont à bien des égards surprenantes. On n'a pas encore parlé de l'idée de droit, qui est un concept central et qui est compliqué de comprendre. On a parlé en revanche de l'opposition entre la démocratie gouvernante et la démocratie gouvernée. Ceci dit, une fois qu'on a donné ces mots-là, qui ne correspondent pas à ceux que nous pouvons connaître, on est un petit peu désemparé. Il a également l'impression de la politique au pays des merveilles, le titre d'un de ses essais. Je m'en ai fasciné parce que je trouvais, de manière sans doute un peu naïve, que le titre n'était pas très bon et pouvait en quelque sorte réduire l'intérêt du volume. Il parle également, dans le dernier tome du traité de sciences politiques, qui parle en 1987, de la révolte décolonisée. Qu'est-ce que la révolte décolonisée peut-être? Sachant qu'il avait donné quelques années auparavant un premier titre qui se serait appelé Rébellion du social. Mais même ce premier titre n'était pas véritablement plus clair. Donc en lisant Burdeau, c'est une sorte de. L'impression, c'est une sorte de mélange, si vous voulez, de révérence pour le monument qu'est l'œuvre, parce que n'importe qui même ne serait pas spécialiste de droit public, qui passe à côté dans une bibliothèque côté des sciences politiques, est évidemment très impressionné par le volume. Et un mélange donc de formules qui sont à la fois un petit peu ésotérique et au contraire de formules qui sont très suggestives et qui nous font comprendre en très peu de temps quelque chose d'important. Et finalement, Burtot est connu, encore aujourd'hui, finalement, des notions qui ont été évoquées, le pouvoir d'État et la notion de citoyen. Donc, plus de notions, et notamment pour celle-ci. Et on va voir que ces notions demeurent en place. Alors, sans entrer trop de détails personnels, parce qu'évidemment tout ça est lié, c'est donc par à la fois le manuel de droit constitutionnel auquel j'ai commencé par lequel j'ai commencé à m'intéresser à Burtot, manuel qui était déjà repris par le professeur Ramon et le professeur Trappert, et j'ai donc voulu voir ce que pouvait être la pensée de Burtot à l'origine, avant les transformations, et c'est à la faveur des discussions avec le professeur Lancard que j'ai pu également plonger dans le traité de sciences politiques, et en particulier le tome 10 sur la révolte décolonisée, parce qu'il avait des développements très intéressants qui concernaient. Et lorsque je comparais ce que je pouvais lire de la doctrine de Burtot et ce que je pouvais lire de la doctrine actuelle, j'étais frappé par le fait que Burtot était sous-exploité. Burtot n'est quasiment jamais cité dans les manuels ou les articles récents. Et je me disais que c'était étrange, je ne comprenais pas pourquoi on pouvait passer à côté d'une source aussi jaillissante de concepts qui étaient particulièrement intéressants, et j'avais le sentiment, peut-être un peu naïf et de jeunesse, mais je crois qu'il a été confirmé, de me situer, d'avoir la chance de me trouver en présence de ce qu'on appelait autrefois un bon auteur, un auteur classique au meilleur sens du terme, à la fois par les thèmes qu'il abordait, avec une langue très élégante, très pure, un petit peu solennelle, et par le fait qu'il les abordait en leur donnant une sorte de stature. Et j'éprouve toujours beaucoup de plaisir à voir que les grands concepts de droit public auxquels nous sommes chers, l'État, la souveraineté, bien Burtot, les prenaient au sérieux et les traitaient y compris avec le ton qu'il fallait avoir, même si son style était parfois plus nuancé, qu'il pouvait dire fortement des choses tout en ayant un style très mesuré. Et ce qui est d'ailleurs frappant à la lecture de Burtot, c'est que Burtot dit des choses. Il dit des choses et il ne fait pas simplement que décrire des phénomènes de manière basique. Et du coup, si je voulais essayer de résumer un petit peu synthétiquement, forcément, l'intérêt que peut avoir un jeune constitutionnaliste, au moins académiquement, puisque c'est le cahier des charges que m'a fixé le professeur Dufflet, j'aurais envie de risquer cette formule en vous disant que, de mon point de vue, Burtot, c'est deux choses. C'est à la fois une pensée qui fait date, mais c'est aussi une pensée qui permet de dater. Alors c'est d'abord une pensée qui fait date, et elle fait date évidemment pour le droit public. Elle fait date pour le droit public, mais pas simplement pour le droit public, pour tous ceux qui ont une vocation de juriste. Je songe par exemple à la thèse sur contrat et pouvoir de mes collègues et amis Nanterrois, le professeur Ediek, qui tout en étant travailliste, comme on dit, avait largement utilisé Et donc, une pensée qui fait date dans tous les grands concepts qui nous intéressent, le pouvoir, la politique, l'État, la démocratie, le libéralisme. Et de mon point de vue, finalement, elle fait également date de deux aspects. Elle fait date parce qu'elle propose un cadre d'analyse, et puis elle fait date d'un autre point de vue parce qu'elle permet d'analyser les concepts auxquels donne accès ce cadre d'analyse. Alors, elle propose un cadre d'analyse, mais un cadre d'analyse juridique. Que ce qui est frappant dans la pensée de Burtot, et c'est qu'il ne faut pas s'arrêter évidemment, sinon à ce contresens, mais à l'erreur peut-être de la notion du traité de sciences politiques, parce que Burtot, comme a dit le professeur Lanquin, était d'abord un juriste et qu'il se voulait un juriste. J'avais été frappé dans la préface de son manuel de l'édition de 1974, qui a disparu par la suite. Il disait ceci, je pense que d'ailleurs c'est servi comme exemple de la thèse, en voulant demeurer juriste, nous faisons preuve de réalisme, car à quoi tend en définitive toute la dynamique politique, sinon à la conquête du pouvoir d'établir la règle et d'en fixer le contenu. Et Burtot consistait donc, comprenait donc que le droit était une dimension du réel et que c'est une composante absolument incontournable. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les grands concepts qu'il a proposés pour fixer un cadre de pensée, il s'est d'abord arrêté à ce qu'on appelle l'idée de droit. Alors, l'idée de droit, c'est un petit peu comme la notion d'institution de Maurice Auroux. C'est une notion qui est assez compliquée de comprendre de Burtot. Il faut s'y apprendre plusieurs fois, parce qu'une des spécificités, c'est qu'on n'entre pas n'importe comment dans Burtot. On a le sentiment quand même qu'il faut entrer par la grande porte. pour pouvoir avoir les codes, parce que d'une certaine manière, c'est une pensée qui est très lumineuse, mais c'est aussi à cause de terminologie parfois étrange, une pensée qui est un petit peu codée. Et donc derrière l'idée de droit, qu'est-ce qu'il entendait? Il entendait dire finalement que l'idée de droit, c'était la représentation de l'ordre désirable qui, dans une société donnée, constitue la ligne de force de la mentalité collective, où elle se cristallise le consensus dominant. Finalement, son idée était assez simple, pas de règle sans ordre, mais pas non plus d'ordre sans règle. Et finalement, la politique n'était jamais que la possibilité ensuite de fixer une règle pour répondre à son besoin de volonté collective. On a évoqué également à l'instant un autre grand concept qui structure sa pensée, l'opposition qu'il faisait entre la démocratie gouvernée et la démocratie gouvernante. En tant que, je traduis, entre le gouvernement représentatif et ce qu'on appellera plus tard la démocratie représentative, c'est ça l'opposition. Opposition dont il rendait compte du sens tout en utilisant le mot démocratie. Là, je partage évidemment la réserve du professeur Jacquin qui l'a exprimé, parce que le mot démocratie est extrêmement ambigu. Il ne se trouvait pas forcément bienvenu, parce qu'il aurait peut-être été préférable de parler de représentation, mais cette formule permettait de rendre compte tout de même de l'imprégnation du mot démocratie dans les débats constitutionnels et juridiques, mais également, plus largement, dans la société. Georges Clemenceau a fait également, est un analyste s'emparer de la pensée libérale et en particulier de la pensée constitutionnaliste, qu'il a merveilleusement étudié dans l'ensemble de son œuvre et dans les articles, je pense, évidemment, aux articles sur la notion de loi, d'engrais et des développements très, vraiment très pertinents qui nous fait comprendre beaucoup à la fois l'histoire de la pensée politique et l'histoire de la pensée juridique. Et puis Bourdou avait également, c'était sans doute parfois moqué, je l'ai entendu dire, un regard très subtil de compartiste. Et je crois, je ne suis pas moi-même comparatiste, mais qu'il avait, je sais qu'il y en a qui s'intéressent aux États-Unis ici, il avait, me semble-t-il, quand j'ai lu ses développements dans le traité, même dans les articles à propos du Conseil suprême, une manière de faire comprendre comme personne une ambiance, notamment une ambiance au Congrès des États-Unis dans les années 60. C'était des propos qui étaient absolument lumineux, des comparaisons entre l'architecture, les institutions en Bretagne, et de la Chambre d'économie, puis de ce qui se passait au Congrès, qui permettait véritablement de faire sentir. Mais pour d'autres, donc, ce n'est pas simplement un cadre d'analyse, ça me semble également être la possibilité d'analyser le cadre et d'analyser les grands concepts qui sont contenus dans ce cadre. Et quels sont ces grands concepts? C'est d'abord, évidemment, la notion de représentation. La notion de représentation qu'il traite de manière extrêmement pointue. Et il y a cette formule absolument géniale. Même s'il réfléchit beaucoup à les démocraties, il considère que la représentation, je cite dans son traité, c'est une formule qui reviendra beaucoup, est une des plus parfaites constructions théoriques dont puisse s'enorgueillir l'esprit humain. C'est-à-dire que si Georges Clemenceau analyse la représentation comme la vérité, c'est-à-dire une manière de capter le pouvoir des citoyens, il y a cette autre formule, pour une élite de le décharger du fardeau du gouvernement, il avait également compris que le concept de représentation en droit constitutionnel et en droit tout court était un concept incontournable, précisément parce qu'il était juste. Et qu'il était très difficile, dans un mécanisme d'imputation de volonté, de pouvoir se passer de la représentation. Et c'est d'ailleurs par la représentation qu'il a pu s'intéresser, et là de manière absolument fulgurante, et de nombre des articles qui sont produits font allusion, je fais notamment allusion à l'allégorie nationale, l'article sur l'allégorie nationale, par une revue d'histoire politique et constitutionnelle, et l'article sur, consacré à la démocratie vivante opposée à la démocratie classique. Il s'est beaucoup intéressé à la notion du peuple et à la notion de volonté du peuple. Or, tous les constitutionnalistes savent que ce sont des notions qui sont absolument abyssales pour le droit constitutionnel. Il avait parfaitement compris, là encore, qu'il fallait les traiter en juriste, que la notion du peuple, ça ne pouvait pas se réduire à la notion sociologique, qu'il fallait d'abord la traiter en juriste, et puis essayer de montrer justement l'évolution dont a parlé le professeur Jacquin, de ce qu'il appelait l'hypostasie peuple réel. C'est-à-dire l'idée que j'ai moi-même essayé d'étudier du passage entre l'idée d'un peuple juridique et d'un peuple réel qui se fait par le suffrage universel, et donc l'idée d'une tension qui peut exister entre la vérité, entre la densité juridique de ces deux peuples. Si le peuple est dans la Constitution, dans la norme, s'il a sa volonté dans un texte, comment peut-il y avoir une deuxième volonté dans les urnes, en quelque sorte? Comment peut-il y avoir deux volontés dans l'État? Problème très dense auquel le professeur Guillemot avait également fait allusion dans sa thèse, et que Georges Clemenceau est un des premiers traités qui traite véritablement de manière juridique certain de ce peuple électoral qui pourrait contredire le peuple de la Constitution et du rapport entre le citoyen et effectivement l'homme civil. Georges Boudot va également s'intéresser à d'autres notions très actuelles qui sont désormais actuelles, comme la notion de majorité. Il y a des développements absolument remarquables sur la notion de majorité dans son traité. Il explique comment cette notion peut être une notion impossible en droit constitutionnel dans un gouvernement représentatif, que ça n'a pas de sens et que ça posait même des questions considérables pour l'établissement des mécanismes de responsabilité politique. Georges Perrault l'avait parfaitement vu. Il a montré également les ambiguïtés de la notion d'opposition et enfin les ambiguïtés très notables de la notion d'opinion publique, notamment dans le fameux article reproduit également dans ce livre, un essai sur la notion d'opinion publique qui était paru dans les années 50 dans une collection très intéressante qui était pour ceux qui forcément des gens qui connaissent les annales de la faculté de droit de Nice, où il y avait des polonais, notamment dans cette collection, qui était et la justice, dirigée par Charles. Et lorsqu'on lit Perrault, avec un petit peu de recul pour s'en servir, on s'aperçoit rapidement que beaucoup de choses ont donné raison à Perrault, les faits ont donné raison à Perrault. D'abord, il avait parfaitement vu le caractère capacitaire, ça c'est évidemment un classique, mais même le risque de dérive oligarchique du gouvernement représentatif de ce qu'il appelle la démocratie gouvernée, censée justement décharger le peuple du fardeau du gouvernement, parce qu'il avait vu que c'est par ce type de régime qu'on pouvait mettre en place une compétition politique qui, en réalité, cadenassait les choix réels et empêchait le bulletin de vote d'avoir une véritable efficacité. Il a également vu, et le professeur Dorquin a fait allusion dans sa préface également, l'existence de pouvoirs de fait qui peuvent effectivement très bien se tenir dans une société à l'abri de toute règle juridique, des pouvoirs économiques, financiers, médiatiques désormais, et les problèmes que l'existence de tels pouvoirs dont le droit constitutionnel ne peut pas rendre compte sur la classification des régimes politiques. Dans les derniers écrits, il y a eu quelques propos très savoureux sur la promotion de l'idéologie de différence, et il avait vu se profiler l'horizon, le passage d'une société qui serait structurée en classe sociale. L'affaire, l'hommage tout à fait drôle, dans le dernier article du volume, son sorte de testament politique, il rend hommage à Marx, en disant que si Marx, pour lui, était un maître à penser, il n'avait jamais été un maître à croire, surprenant, pour ce grand bourgeois, en quelque sorte, religieux. Donc il avait vu ce passage d'une société de classe à une société de genre, avec ce qu'il appelle la révolte économisée, le fait qu'il n'y ait pas la promotion des jeunes, des femmes, des minorités. Il avait également parfaitement vu les risques de désintégration de la figure du citoyen. Le citoyen, qu'il avait en haute estime, et peut-être que ce fait se réalise aussi dans nos sociétés, et je pense à l'ouvrage, par exemple, du professeur Eric Desmond, qui a rendu compte de cette chose. Et justement, parle de ça à la fin des années 80, le deuxième originalité, ou le deuxième apport de l'œuvre de Perrault, y compris à travers ses articles, de mon point de vue, c'est qu'elle permet de dater. Elle permet de dater plusieurs choses. Elle permet d'abord de dater la transformation des disciplines, et elle permet de dater la mutation des concepts. Elle permet d'abord de dater la mutation des disciplines parce que Perrault se trouve être un homme à la croisée de plusieurs chemins et peut-être même de plusieurs époques. Il n'est pas le grand ancien, encore, à la Ouryou, à la Dugui ou à la Karima de la Karim Alper, dont on reprint, comme on dit aujourd'hui, les ouvrages chez Dalloz, pour la meilleure raison que certains ouvrages de Perrault, et pas simplement les formes de poche, sont encore disponibles à la Trilogie, j'en ai fait l'acquisition. Donc, il n'est pas suffisamment ancien pour qu'on puisse avoir une révérence pour sa pensée, même si parfois on peut devenir, en ayant une pensée, certes dense, mais en étant mort depuis pas très longtemps, on peut devenir un santo subito, comme le doyen Godet. Donc Georges Perrault n'a pas été sanctifié immédiatement, mais il n'est pas non plus la personne qu'on oublie complètement. Georges Perrault est encore connu, mais effectivement, comme a dit le professeur Dorquin, comme un bon, or, il est absolument capital parce qu'il permet son œuvre qui est faite au long cours, qui embrasse toute la doctrine du droit public et qui est faite sur évidemment des années, embrasse à la fois les concepts et embrasse la matière. Il est un point d'observation pour voir comment on passe d'un monde à l'autre, et en particulier donc dans la transformation des disciplines. Transformation des disciplines, là il est inutile d'y insister, évidemment le passage du droit public à la science politique. Georges Bugeaud a fait le sens de certaines notions, on n'avait pas toujours le sens de la formule, et on peut dire qu'avoir appelé son traité de droit constitutionnel, traité de sciences politiques, à l'époque où il pense faire une affaire, si j'ose dire, faire le pari de l'avenir, est une erreur qui nous coûtera cher, parce que je serais prêt à parier que si son traité s'appelait traité de droit constitutionnel, il ne serait pas du tout oublié comme il l'est aujourd'hui, ou en tout cas mis de côté, et qu'on se pencherait, certes, il y aurait des regards sans doute des approbateurs sur le contenu de ce traité, en considérant qu'il ne correspond pas à la grande doctrine aujourd'hui, c'est-à-dire le contentieux constitutionnel. Mais il ne serait pas tombé dans l'oubli, ou en tout cas dans la marginalité dans laquelle il est tombé, entre paradoxe du fait qu'effectivement, le professeur Dancan a évoqué, et Jean Goumet, dans les actes du colloque de 90 consacré à Bourdieu, évoque, lui qui l'a très bien connu, qui est un de ses amis d'enfance et d'étudiants, une sorte de personnage à la fois très académique et assez marginal dans sa pensée. Et donc, la mésaventure, c'est la mésaventure du nom, du passage du droit constitutionnel à la science politique, alors que c'est finalement du côté du droit constitutionnel que va se jouer l'avenir, et ça, évidemment, il ne le sait pas. Du coup, lorsqu'on prend le traité de droit de science politique, on est évidemment, ceux des politistes, comme on dit, qui voudraient s'attendre à trouver les choses qui les concernent chez Bugeaud, sont évidemment très déçus, parce qu'en réalité, de grandes notions du droit public que l'on trouve. Chez Bugeaud. Et parce qu'il entendait la science politique comme doivent entendre les publicistes en quelque sorte. C'est la science de l'État, la science du pouvoir, de la souveraineté, des grands concepts du droit public, même s'il n'entendait pas lui, par science politique, donc, une sorte de, simplement de supplément d'âme au droit constitutionnel et le fait qu'on passerait avec la science politique à mieux. Mais il n'entendait pas non plus le droit comme le fait de trouver une sorte de phase pure d'un monde qui serait impur. Il considérait que les deux devaient se compléter parce que finalement, la science politique n'était jamais que le moyen. Le droit n'était jamais que le moyen de la politique. Georges Bugeaud, enfin donc, permet de dater la mutation des concepts. Je serai bref parce que beaucoup de choses ont été dites auparavant. Évidemment, le concept de démocratie, cela a été évoqué, mais je voudrais de démocratie représentative, vous avez parfaitement compris, il y a des développements qui sont tout à fait fascinants dans son traité, qu'avec la notion de démocratie représentative, on avait une sorte d'expression curieuse qui désigne un monde où on n'est plus vraiment dans le gouvernement représentatif, on n'est pas encore véritablement non plus dans la démocratie, ça désigne ce régime politique innommé qui ne vit que d'ambiguïté et repose sur le vote et l'élection et qui écarte d'autres points qui lui semblaient tout à fait importants. Mais à part la démocratie, je voudrais m'arrêter un instant sur deux points qui me paraissent importants des concepts qu'il étudie, qui est celui justement de pouvoir d'État et de citoyen et d'homme. Alors, sur le pouvoir d'État, évidemment, c'est une notion pour laquelle Georges Bugeaud est encore connu, ça n'est pas. Le pouvoir d'État, parce qu'on dit évidemment, la restauration du pouvoir d'État en 1958, c'est la possibilité, à travers le président de la République, de retrouver une unité de pouvoir qui avait été perdue sous les républiques précédentes, en particulier sous la 4e République, du fait des joutes politiciennes, du poids des partis qui réfléchissaient d'abord à leur intérêt plutôt qu'à l'État. Il était donc très fier de voir se jumeler dans la Constitution de 1958, non seulement le pouvoir d'État, incarné par le président de la République et le référendum, mais également le pouvoir démocratique. Incarné par le Parlement, qui permettait, selon lui, pour la première fois, d'arriver à concilier quelque chose qui avait été difficilement conciliable dans le droit constitutionnel français. Ceci dit, pour répondre au point, vous donner de l'eau au moulin, si j'ose dire, du grain à moudre à ce qu'a dit le professeur Arnaud tout à l'heure, si en 1958 il était très fier de son analyse, en 1960 aussi, après 2 ans de pratique, il dit finalement, oui, ça se confirme pour le temps du pouvoir d'État, eh bien, effectivement, son analyse. Il la considérait lui-même qu'elle avait mal vieilli. Elle avait mal vieilli, en effet, à cause de l'élection du président de la République au suffrage universel. Et en 1986, dans le dernier volume paru chez Economica de son traité de sciences politiques, il aura finalement des mots relativement durs contre sa propre théorie pour expliquer que sa théorie avait mal résisté à l'élection au suffrage universel du président de la République, parce qu'il voyait là-dedans la possibilité d'ajouter l'élection suffrage universel, d'ajouter de la démocratie au pouvoir d'État, et donc d'ajouter une sorte de compétition électorale à un pouvoir qui aurait dû en rester écarté. Et par conséquent, il voyait bien que la compétition politique et électoral brouillait l'identité de ce pouvoir d'État et ajoutait donc des éléments qui n'auraient pas dû s'y trouver sous prétexte de volonté populaire, dont il voyait bien qu'elle n'était pas aussi présente que cela dans la réalité des choses, analyse qui, de mon point de vue, se confirme beaucoup aujourd'hui et encore plus sous le quinquennat actuel. Le deuxième point, c'est la notion de citoyen et l'opposition à laquelle on situe. Là, j'ai été très sensible à ce qu'a dit le professeur Avril et qui me conforte dans ce que j'ai lu. L'opposition entre le citoyen et le situé de Georges Pompidou est beaucoup moins nette, on peut bien le dire, notamment à l'occasion de la manière, à l'occasion d'une restitution de cette notion, à l'occasion donc de la décision du Conseil constitutionnel en 1982, quota par sexe. Dans le commentaire qu'on a fait à Julien Jean-Louis, il disait à l'époque qu'il se servait de la notion d'homme situé de Durdeau pour essayer de dire voilà pourquoi on a dit que les élections locales étaient des élections politiques, parce que finalement l'électeur local ne s'y comporte pas autrement qu'en citoyen, il le fait avec les mêmes préventions, le même souci de l'intérêt général, et il s'appuyait sur la notion de Jean-Louis. En réalité, dans les écrits de Durdeau, dont certains sont d'ailleurs employés dans le texte, Durdeau dit que s'il y a bien un individu qui n'est pas un citoyen, c'est bien l'électeur, et que l'électeur, loin d'agir dans l'absence de passion, si du citoyen qui doit être éclairé par la raison pour opiner sur la chose publique en faisant abstraction de ses préférences personnelles. Et l'homme situé, l'individu, il le caractérisait avec ses égoïsmes, ses appétits, son aveuglement face aux intérêts permanents de la collectivité. Eh bien, dans les écrits que nous avons ressuscités d'une certaine manière, Durdeau ne dit pas tout ça à l'électeur, il n'y voit pas la figure du citoyen qui s'exprime impurement, il dit au contraire qu'on appelle toujours les citoyens aux urnes, mais c'est l'ouvrier de la région d'eau, l'actionnaire de la chaîne du Haut-Katanga qui vote. Et par conséquent, il ne considérait pas que c'est parce que le citoyen, l'électeur agit en qualité de citoyen que les élections locales peuvent être qualifiées d'élections politiques. Et on se rend compte donc en lisant Durdeau, non seulement on découvre de nombreux concepts avec bonheur, tant il les traite de manière classique, mais que sa pensée elle-même mérite d'être revisitée parce qu'elle a pu donner lieu à un certain nombre d'interprétations qui ne sont pas conformes à la pensée dans sa pureté qu'il pouvait avoir. C'est pourquoi ça me semble être toujours très important, se justifier parfaitement de redécouvrir la pensée centrale de celui qui me semble être un des plus grands auteurs du droit public. Je vous remercie.
Merci, cher Bruno, pour cette magnifique apologie réfléchie de l'œuvre de Durdeau.